Éclairage.
Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Nicolas Dose.
Bonjour et bienvenue dans Éclairage qui reçoit aujourd'hui Jacques Delarosière. Jacques Delarosière, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes membre de l'Académie des sciences morales et politiques, élu en 93 dans la section générale, mais aussi gouverneur honoraire de la Banque de France, ex-gouverneur de la Banque de France, également ancien directeur général du FMI de 78 à 87, c'était juste avant l'époque de Michel Cantsu. Vous avez encore dirigé la BERD, la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement, et puis actuellement vous êtes conseiller du président de BNP Paribas. Le 6 décembre dernier, vous êtes intervenu devant l'Académie pour évoquer la situation de l'Europe face aux États-Unis, et c'était une intervention intitulée « Comment l'Europe peut-elle rattraper l'économie américaine ?» Vaste sujet. Quelle était votre motivation en arrivant devant l'Académie? Qu'est-ce que vous souhaitiez démontrer?
Eh bien, le sujet qui m'était proposé, c'était donc, comme vous venez de le dire, comment l'Europe peut-elle rattraper l'économie américaine, ce qui suppose implicitement que...
Elle est en retard.
Que l'Europe est en retard, que les États-Unis sont en avance, et qu'il est souhaitable que l'on comble ce retard. Alors, j'ai essayé de présenter les choses de la manière suivante. D'abord, j'ai voulu un peu évoquer le point de départ de l'économie américaine. L'économie américaine est en effet en avance sur beaucoup de points par rapport à l'économie européenne, mais elle a aussi des caractéristiques propres qui la différencient assez profondément de nos économies. Et à certains égards, ces caractéristiques propres ne sont pas réplicables en Europe. Ça, c'était mon premier point. Mmh. Après avoir essayé de démontrer cela, je me suis attaché à l'idée d'expliciter les mesures ou les orientations qui permettraient à l'Europe de rattraper celles des performances des États-Unis qui sont les plus pertinentes et sans modifier en profondeur notre régime social.
Alors, ces caractéristiques propres aux États-Unis, les principales que vous pouvez identifier?
Oui. Alors, je vais répondre à cette question. Je crois qu'il y a deux grandes caractéristiques. La première, c'est que l'économie américaine absorbe une part très importante de l'épargne mondiale. Et ça, c'est une caractéristique qui, à mon sens, n'est pas réplicable en Europe. Et même si elle l'était, je ne pense pas que ce serait souhaitable. Pourquoi est-ce que l'économie américaine absorbe une part importante de l'épargne mondiale? C'est parce que les déficits de la balance des paiements courants, les déficits extérieurs des États-Unis,
qui sont abyssaux aujourd'hui.
Ils sont abyssaux, ils ont atteint une ampleur.
On est à 5% record. Du PIB, ou
oui, peut-être même un plus. Peu plus, 5,5% voilà. Du PIB, ce qui fait quelque chose comme 650 milliards de dollars par an. Et ça, c'est donc la manifestation de cette insuffisance d'épargne face aux dépenses d'investissement. Il faut savoir que les taux d'épargne des ménages sont aujourd'hui pratiquement nuls aux États-Unis. Les dernières statistiques connues, c'est 0,2% du revenu après impôt. Et de ce fait, les consommateurs américains ont considérablement érodé leurs épargnes pour consommer, et ce faisant, ils ont constitué un de ces piliers très solides de l'économie américaine, dont nous bénéficions tous d'ailleurs dans le monde, puisque les consommateurs américains sont un peu les moteurs de l'économie mondiale. Mais c'est évidemment... cela comporte un inconvénient, c'est que les États-Unis s'endettent pour pouvoir régler ce déficit extérieur. Et la situation est peut-être encore pire, en ce sens que non seulement les ménages s'endettent pour consommer, mais le gouvernement s'endette pour faire un certain nombre de dépenses militaires et autres. Et comme il réduit aussi les taxes sur les plus privilégiés, le déficit budgétaire s'accroît. Il est aujourd'hui de l'ordre de 3,5% du PIB. Et d'un certain point de vue, les deux déficits qu'on appelle jumeaux, le déficit extérieur et le déficit budgétaire, se conjuguent. Alors, Comment est-ce que les États-Unis arrivent à financer ces déficits extérieurs? Eh bien, ils y arrivent...
Par la faiblesse du dollar?
Oui, enfin, c'est plus compliqué que ça. Ils y arrivent d'abord parce que c'est le seul pays au monde, les États-Unis, qui peut emprunter à l'extérieur dans sa propre monnaie. Il faut savoir en effet que le dollar, bien qu'il ait été détaché de l'or en 1971 et qu'il flotte, comme pratiquement toutes les monnaies importantes depuis 1973, le dollar est la grande monnaie de réserve et de libellé des transactions mondiales.
On est bien d'accord.
Et il y a à peu près, dans les banques centrales, entre 65 et 70% de dollars, l'euro ne constituant qu'une part plus modeste, de l'ordre de 15%. Et donc les États-Unis peuvent emprunter dans leur propre monnaie, ce qui rend évidemment beaucoup plus facile le règlement de ces grands déficits. Et alors vous disiez il y a un instant, oui, mais le dollar baisse. Il baisse en effet parce qu'il faudrait, si vous voulez, que chaque journée, les États-Unis empruntent à peu près 2 milliards de dollars par jour, donc, pour que le marché d'échange s'équilibre. Et il suffit qu'il y en ait un petit peu moins de 2 milliards pour que, effectivement, le dollar baisse quelque peu. Alors vous savez que les grandes banques centrales d'Asie du Sud-Est, du Japon, achètent
La banque du Japon achète tous les jours du dollar pour éviter la fin des
yens. Ils achètent du dollar pour maintenir un rapport qui leur paraît convenable entre leur monnaie et celle du dollar. Donc ça, ce sont des caractéristiques que j'appellerais des caractéristiques singulières. Ce ne sont pas des caractéristiques dont je préconiserais la réplique en Europe. D'ailleurs, nous ne le pourrions pas, étant donné que notre monnaie n'est pas considérée comme une grande monnaie de réserve.
Alors, mais la Banque Centrale Européenne n'aurait pas la possibilité d'acheter elle-même du dollar aussi pour...
Oui, mais les mouvements sont considérables. Ouais. Et dans ce genre d'affaires, il faut vraiment se rendre compte des montants en jeu et aussi de la nécessité de faire des choses de manière tout à fait concertée. Alors le deuxième facteur, si vous voulez, le deuxième aspect de cette situation américaine, qui est positif, lui, et c'est un peu le revers de la médaille, ou l'avers de la médaille, c'est que l'économie américaine est une économie très dynamique, très flexible, qui attire des investissements étrangers et qui connaît une très forte croissance. Ce qu'on appelle la croissance potentielle d'une économie, c'est-à-dire la croissance qu'une économie peut atteindre à moyen terme au long du cycle, c'est-à-dire quand on cumule la croissance moindre en période de récession, la croissance plus forte en période d'expansion, on a un cycle économique. Et la croissance moyenne des États-Unis au cours d'un cycle, sans pression inflationniste, est de l'ordre de 3,5%. En Europe, quand vous faites le même calcul, vous voyez que la croissance potentielle est de l'ordre de 1,5 à 2%, c'est-à-dire environ la moitié.
On ose encore espérer 2% en ce moment.
Oui, mais 2% vis-à-vis de 3,5%, c'est un handicap considérable et c'est le sujet qui m'était posé. Alors, pourquoi est-ce que les États-Unis connaissent cette croissance plus forte que la nôtre, et une croissance durablement plus forte? Eh bien, je crois que c'est dû essentiellement à deux facteurs qu'on ne souligne pas souvent. Le premier facteur est un facteur démographique. La croissance démographique aux États-Unis est positive et elle fait contraste avec le déclin de la population européenne. Depuis 1965, les États-Unis ont mené volontairement une politique d'immigration systématique, alors que l'Europe a eu une approche à la fois plus restrictive et plus passive.
On sait qu'effectivement aujourd'hui, cette politique, cette population étrangère aux États-Unis contribue très sensiblement à la croissance.
Tout à fait. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la population, notamment d'origine latino-américaine, qui est un élément très important de l'immigration aux États-Unis, comporte une fertilité plus grande que celle des Américains de souche. Et ce qui fait que, dans l'ensemble, la fécondité est restée très proche du seuil de renouvellement des générations depuis à peu près 20 ans, alors que cette fécondité est descendue à 1,5 enfant par femme environ dans l'Union européenne. Et ce qui veut dire que les perspectives de la population aux États-Unis, qui repose sur cette fécondité légèrement supérieure à 2 enfants par femme et à une immigration annuelle de plus d'1 million de personnes, les perspectives de population aux États-Unis sont très favorables. Je pense qu'en 2025, la population américaine croîtra d'environ 20%. Et si vous regardez la situation démographique de l'Europe, elle est beaucoup moins favorable. Quand on fait des projections un peu positives, avec une fécondité qui remonterait de 1,5 à 1,7, on arrive à une légère croissance de l'Europe, de la population européenne en 2025. Mais si on est un petit peu moins optimiste, et je crois que c'est probablement ce qui se dessine aujourd'hui, la population européenne se réduirait d'environ 10% en 2025 pour atteindre un peu moins de 350 millions d'habitants. Et ce qui est plus grave encore, c'est que le vieillissement de la population européenne l'emportera sur les tendances projetées pour les États-Unis en matière de vieillissement. Et je crois qu'il y a une statistique, je ne veux pas vous ennuyer avec trop de statistiques, mais il y a un chiffre qui me paraît assez intéressant. En Europe, les 65 ans et plus atteindrait 22% de la population totale en 2025. Aujourd'hui, c'est 16%. Alors que ce chiffre des plus de 65 ans ne serait que de 17% aux États-Unis, aussi en 2025. Et quant à la population en âge de travailler, elle augmenterait pendant cette période de 16% aux États-Unis, alors qu'elle baisserait de 1% en Europe. Et si vous prenez un indicateur clé pour la croissance future d'une économie, et c'est bien ça le sujet que vous me posez aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le ratio de dépendance moyen, c'est-à-dire que c'est la proportion des 60 ans et plus par rapport aux personnes de 15 à 59 ans qui sont en âge de travailler. Et vous voyez que cet indicateur est très préoccupant en matière européenne. Et je pense que en 2020, disons, ce ratio européen de dépendance pourrait atteindre 47%, alors qu'aux États-Unis, il resterait constant autour de 25%. Donc, on a une population qui est, je dirais, durablement plus jeune aux États-Unis, plus féconde et moins vieillissante.
On va marquer une première pause, Jacques Delarosière, dans cette émission. Je rappelle que vous êtes donc académicien et également ancien gouverneur de la Banque de France. À tout de suite.
Vous écoutez Canal Académie.
Parce qu'ils ont façonné l'histoire de nos civilisations, ils furent acteurs ou témoins de l'histoire. Leurs travaux et ouvrages nous font traverser les siècles. Historiens, philosophes, économistes, juristes et sociologues s'expriment sur Radio Canal Académie. Les membres de l'Académie des sciences morales et politiques racontent. Retrouvez-les dans Un jour dans l'histoire, une émission de la rédaction de Radio Canal Académie.
Nous retrouvons Nicolas Dose. Suite d'éclairage qui reçoit aujourd'hui Jacques Delarosière, académicien, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, ancien gouverneur de la Banque de France. Jacques Delarosière qui s'exprimait le 6 décembre devant l'Académie autour d'un thème clé qui nous concerne directement, comment l'Europe peut-elle rattraper l'économie américaine. Alors dans la première partie de cette émission, Jacques Delarosière, on parlait de la très forte croissance des États-Unis. Vous évoquiez deux facteurs. On avait commencé à brosser le premier, qui est cette très forte croissance démographique américaine qui, comparée à un vieillissement de la population européenne, met les États-Unis en position favorable.
Tout à fait. Et il faut souligner que cette évolution démographique n'est pas simplement tombée du ciel. Elle est voulue aux États-Unis. Il y a une politique qui est très sociale.
La politique d'immigration.
Oui, nous disons toujours que nos politiques sont très sociales. Mais en réalité, la politique américaine qui ouvre largement ses frontières à des immigrés comporte un élément de social que nous sous-estimons quelquefois.
Alors, en même temps, Jacques Delarosière, il faut trouver des emplois pour ces gens. On estime que sous le premier mandat de George Bush Jr., 1 600 000 emplois ont été détruits, ce qui est du jamais vu pour l'économie américaine. Alors avoir effectivement une population active dense et forte, c'est bien, encore faut-il la mettre au travail.
Oui, mais je vous réponds à ça que le taux de chômage aux États-Unis est autour de 5%, Alors, il pourrait être de 4 si on avait fait plus d'emplois sous la période.
On considère que ces chiffres sont comparables au sens du Bureau international du travail par rapport aux nôtres.
Alors que les nôtres oscillent autour de 9%.
On est bien d'accord, quasiment.
Alors, 10. On peut critiquer les États-Unis de ne pas fabriquer assez d'emplois. Personnellement, je serais assez heureux si on en avait créé autant en Europe.
En attendant, la tendance actuelle était plutôt cette fameuse reprise sans emploi, jobless, comme on disait là-bas. Et est-ce que les choses ont tendance à changer ou est-ce que c'est véritablement sur cette direction-là que c'est cette direction qu'a pris l'économie américaine aujourd'hui ?
On ne peut pas tout à fait dire que c'est une jobless recovery parce qu'il y a tout de même des créations d'emplois qui sont très significatives. Mais en effet, il y a moins de contenu d'emploi dans la reprise américaine actuelle qu'on ne l'a vu dans le passé. Cela dit, le taux de chômage reste encore très, très modeste et entre une jobless recovery et une jobless stagnation, au total, pour des raisons sociales, je préférerais la première. Surtout quand elle s'accompagne d'un chômage deux fois plus faible que chez nous. Alors, la deuxième chose après la démographie, c'est les gains de productivité. Alors, les États-Unis ont connu, dans la période depuis 1995 à maintenant, des gains annuels de productivité du travail qui sont de plus de 2% calculés par employé. Ces gains sont environ deux fois plus élevés que ceux des grands pays européens. Et je crois que les investissements américains dans le domaine de l'informatique et de la communication depuis quelques années, sont en grande partie à l'origine de cette très forte croissance de la productivité du travail. Alors, on répond parfois à ce que je viens de dire, que les gains de productivité américains, quand on les calcule non plus par employé, par tête, mais par heure travaillée, sont beaucoup moins spectaculaires quand on les compare aux chiffres européens, ce qui est exact. Mais ce qui importe pour mesurer le dynamisme d'une économie et non pas d'une personne au travail dans un instant T, c'est moins la productivité horaire du travail que le taux d'emploi et le nombre des heures effectivement travaillées. Or, de ce point de vue, la comparaison est malheureusement accablante pour l'Europe. Les employés, par exemple français et allemands, j'ai pris les chiffres, travaillent 17% de moins que leurs homologues américains. Et on comprend tout de suite pourquoi le PNB est plus élevé aux États-Unis qu'il ne l'est en France si le travail est beaucoup plus abondant de l'autre côté de l'Atlantique. Il est évident que cette inclination au travail joue sur la croissance et sur le chômage. Depuis 1990, le chômage structurel oscille entre 8 et 9% de la population active en Europe, alors qu'aux États-Unis, on le disait il y a un instant, il tend vers 5%. Et si on réfléchit à cette très forte progression de la productivité et de la croissance aux États-Unis, on voit que la flexibilité des réglementations américaines y est pour beaucoup. Dès lors que les revenus réels s'améliorent, les individus ont le choix entre ou augmenter leur temps libre ou privilégier la croissance de leurs moyens financiers en continuant à travailler. Alors aux États-Unis, ce choix est libre. Et en Europe, le niveau relativement bas de la durée du travail est moins un choix individuel que le résultat de réglementations, de décisions qui sont prises par quelqu'un d'autre.
Les Français le savent bien.
Qui est l'État. Oui. Alors, le résultat de tout ça, c'est que les hommes de 55 à 64 ans travaillent beaucoup plus aux États-Unis qu'en Europe. Il y a 67% de cette catégorie démographique qui travaille aux États-Unis. En France, c'est 39%. Le résultat, c'est aussi que la fréquence du chômage de longue durée, c'est-à-dire 12 mois et plus, est significativement plus élevée en Europe qu'aux États-Unis. Le résultat, c'est aussi que les dépenses publiques de soutien à l'emploi en pourcentage du PIB sont beaucoup plus faibles aux États-Unis, sont de l'ordre de 0,7% qu'en Europe, où elles oscillent autour de 3%. Alors voilà un petit peu, si vous voulez, du côté américain,
d'accord,
le tableau. D'une part, un privilège du dollar qui fait qu'ils peuvent se permettre un déficit extérieur considérable, c'est-à-dire une absorption d'épargne mondiale pour soutenir leur économie, et deuxièmement, des facteurs intrinsèques américains, flexibilité des marchés, puissance démographique.
Alors ce qui est intéressant maintenant, c'est de savoir comment est-ce que l'Europe vis-à-vis de ça, puisque on nous reproche d'avoir une banque centrale européenne, mais qui se focalise à surveiller exclusivement le niveau des prix sans s'intéresser à la croissance, à l'emploi et à la monnaie. Alors vous qui êtes ancien gouverneur de la Banque de France, c'est un terrain sur lequel vous êtes fin connaisseur et on nous reproche d'avoir de grands talents mais qui s'expatrient vers les États-Unis puisque leur pays d'origine ne parviennent pas à leur donner des rémunérations convenables et des perspectives de carrière alléchantes. Quelles sont les solutions qu'on peut trouver et qu'on peut mettre en place finalement assez rapidement pour réduire les écarts?
Alors, c'est ça la question, et je crois qu'il était bon d'analyser un peu ce qui fait la force de l'économie américaine, et aussi sa faiblesse, avant de pouvoir y répondre. Alors, ma réponse à cette question, je le regrette, n'est pas monétaire. Parmi les facteurs que j'ai indiqués tout à l'heure, je n'ai pas cité la politique monétaire. Je suis de ceux qui pensent qu'une différence d'un demi-point sur les taux d'intérêt à court terme n'est pas le facteur explicatif de ces mouvements de croissance économique.
Il se trouve qu'aujourd'hui, la Fed et la Banque Centrale Européenne sont en parfaite adéquation au niveau de leurs taux d'intérêt.
Bon, donc le sujet, en réalité, il n'est pas là. Le sujet, il est dans les fondements. Et moi, je résumerai, pour la simplicité du débat, le sujet en France et en Europe, plus généralement, autour de trois thèmes. Travailler davantage, puisqu'on vient d'expliquer qu'on travaille à peu près 17 à 20% de moins qu'aux États-Unis. Réduire le poids des prélèvements obligatoires et encourager l'éducation et la recherche. Alors, si vous le permettez, on peut rapidement couvrir ces points.
Absolument, absolument, c'est essentiel.
Alors, travailler davantage. Quelles sont les causes de l'insuffisance de l'emploi en Europe? Pourquoi y a-t-il un chômage structurel qui est de l'ordre de deux fois supérieur à celui qui existe aux États-Unis, autour de 9-10, alors que les États-Unis, c'est autour de 5?
Les Allemands sont même au-dessus de 10 maintenant.
Oui. Alors, qu'est-ce qui explique cette difficulté? Les causes de l'insuffisance de l'emploi sont multiples et je ne prétends pas pouvoir même les traiter en détail. Mais il y a une explication générale qui me semble rendre compte du phénomène. Et je cite ici le chef économiste de l'OCDE qui s'appelle Jean-Pierre Cottis, qui est un économiste très, très respecté. Et il écrit « La faiblesse du taux d'emploi observé en Europe s'explique dans une large mesure par des politiques visant à décourager l'offre de travail ». Fin de citation. Et quand vous réfléchissez aux différents dispositifs qui existent en Europe pour protéger l'emploi, vous voyez que ces dispositifs sont en général fondés sur le concept que l'offre d'emploi étant limitée, il convient de la répartir entre le plus grand nombre par des mesures réglementaires. Ces politiques cherchent ainsi à redistribuer le travail au profit, par exemple, des plus jeunes, en multipliant les départs en pré-retraite pour les 50 ou 55 ans. Elles visent aussi, notamment en France, à abréger la durée légale du travail afin de répartir les emplois sur un plus grand nombre de demandeurs, d'où la retraite à 60 ans, les 35 heures hebdomadaires, etc. Alors, ce sont des politiques qui sont essentiellement malthusiennes et dont le fondement économique est de plus en plus largement contesté par les économistes modernes. Ces politiques ont échoué. Comme l'écrit aussi Jean-Philippe Cottis, elles ont contribué, ces mesures, à déprimer l'emploi total et donc l'assiette financière des régimes sociaux, sans réduire le chômage, qui reste très élevé dans les grands pays d'Europe continentale. Alors, je crois que la recherche économique la plus récente, et ici je me mets tout à fait à l'écart du débat partisan, montre que la « protection » entre guillemets de l'emploi tend à réduire l'emploi, pas le chômage, et à allonger au contraire le chômage, ce qui décourage les travailleurs, puisque quand on est en chômage de longue durée, on a beaucoup de mal à se réinsérer, et réduit en conséquence ce qu'on appelle le taux de participation, c'est-à-dire les gens qui participent dans la vie active.
Donc en fait, ce que vous critiquez, c'est tous les dispositifs qui relèvent un petit peu de l'assistanat ou de l'aide à l'emploi, qui en fait sont finalement des freins, selon vous, contrairement à ce que font les Anglais, qui ont décidé qu'ils allaient faire en sorte que le chômage soit un état très inconfortable, de manière à ce qu'on ait envie d'y rester le moins longtemps possible.
C'est un peu ça. Par exemple, on a mesuré ce qu'on appelle l'indice de protection de l'emploi. Il est publié dans les statistiques de l'OCDE sur une échelle qui va de 0 à 6. Et vous voyez qu'il est inversement corrélé au taux d'emploi. C'est-à-dire, plus la protection est élevée, plus l'emploi est faible. Les statistiques sont absolument éclairantes. Et si on ajoute que le très faible écart entre l'indemnisation du chômage ou du non-travail sous toutes ses formes, d'un côté, et le salaire minimum de l'autre, constitue une désincitation à retrouver un emploi, on a une idée de l'ampleur des erreurs qui ont été commises, en général d'ailleurs avec d'excellentes intentions, au cours des dernières années.
Qui sont les plus gros fautifs en Europe dans ce domaine ?
Je crois que les pays scandinaves et le Royaume-Uni n'ont pas été fautifs. Le reste des pays...
Donc en fait, le tandem très... Paris-Berlin...
Oui, parce que l'idée, n'est-ce pas, de protéger l'emploi est une idée qui, malheureusement, ne fait pas place à une autre idée qui, elle, est fondamentale, qui est d'encourager l'emploi. C'est bien de protéger des droits acquis, des gens qui ont été dans le marché du travail, qui sont en chômage, mais c'est mieux de créer des opportunités qui feront que ces gens retrouveront des emplois. Et donc, je crois que le mot d'ordre, ce n'est pas protéger à tout prix des situations malheureusement précaires. Il vaut mieux, comme le dit le rapport Cantu, préférer l'emploi à l'assistance. Et moi, mon mot d'ordre, ça serait instituer une plus grande flexibilité des marchés du travail, faire en sorte que les réglementations sociales et les prélèvements soient orientés vers l'incitation au travail et moins vers la protection des situations acquises.
Voilà. Jacques Delarosière, on va marquer une deuxième pause dans cette émission Éclairage sur Canal Académie. On revient dans quelques instants pour poursuivre ce débat autour d'une problématique essentielle. Comment l'Europe peut-elle rattraper l'économie américaine ? À tout de suite.
Canal Académie. Canal Académie.
Nous retrouvons Nicolas Dose. Suite d'éclairage, troisième partie de cette émission. Je reçois aujourd'hui Jacques Delarosière sur Canal Académie, académicien, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, mais également ancien gouverneur de la Banque de France. Le 6 décembre, Jacques Delarosière, vous êtes intervenu devant les académiciens autour d'une question centrale pour l'équilibre économique du monde. C'est comment l'Europe peut-elle rattraper l'économie américaine ? Alors, pendant la première partie de cette émission, on a essayé de comprendre quelles étaient les forces et faiblesses de cette économie aux États-Unis. Et un petit peu avant cette deuxième pause, on a commencé à évoquer la situation en Europe et comment faire. Alors, le premier point qu'on évoquait, c'était la durée du travail, le temps de travail, éternelle polémique, notamment en France. Et juste avant la pause, vous évoquiez Michel Cantu, Michel Cantu qui a été votre successeur au Fonds monétaire international en 1987. Michel Cansu, qui a donc remis un rapport récemment au gouvernement, avait une formule que j'ai considérée comme particulièrement forte. Il parlait d'un déficit de travail. Alors évidemment, ça concernait la France, pas simplement l'Europe. Est-ce que c'est donc la position qui est la vôtre aussi ?
Oui, c'est tout à fait la position qui est la mienne. Et ce que je viens de dire n'est pas en soi une mauvaise nouvelle. Ça a l'air un peu paradoxal. Mais en réalité, c'est une bonne nouvelle. Parce que si nous en citions les entreprises à embaucher, par exemple en continuant, on le fait déjà, mais en le faisant davantage, à réduire le coût du travail peu qualifié, si on acceptait de tenir compte de la productivité et des conditions locales dans la formation des salaires, pas avoir des dispositifs nationaux, si on améliorait l'éducation, si on développait la formation continue, si on encourageait les plus âgés à travailler davantage, comme c'est le cas aux États-Unis, on aurait là une réserve, une source de rattrapage considérable par rapport aux États-Unis, et je crois qu'on aurait un facteur clé pour la croissance future de notre continent à démographie déclinante.
Parlons-en, Jacques de la Rosière, est-ce que, par exemple, en France, il faut revenir en arrière et briser ce que la loi a mis en place, c'est-à-dire les 35 heures ?
Vous voulez dire, est-ce qu'il faut revenir en avant ?
D'accord.
Oui, je dis oui. Alors, la deuxième chose peut-être qu'on pourrait aborder maintenant, si vous en êtes d'accord.
Je dis briser ou réparer d'ailleurs, hein, parce qu'effectivement, sur la sémantique, on peut trouver...
Oui, non, mais je crois qu'il faut que les gens puissent choisir. S'ils veulent travailler plus, ils travaillent plus. S'ils veulent travailler moins, il faut que le système soit suffisamment...
Alors, passons effectivement au deuxième point. Les prélèvements, effectivement.
Oui.
Sous l'ère de George Bush, premier mandat, on a assisté à des baisses d'impôts massive aux États-Unis, probablement historique, j'ai pas tous les chiffres en tête, mais enfin, des baisses d'impôts qui effectivement ont fini par doper l'économie américaine. La grande différence avec l'Europe, c'est que cette économie américaine avait la possibilité effectivement de s'endetter et de creuser son déficit, ce que l'Europe, depuis un certain traité de Maastricht et un pacte de stabilité entériné à Amsterdam en 1997, ne peut plus faire.
Oui, non, mais là, je n'adhère pas du tout à votre présentation. D'abord,
elle est volontairement un peu provocatrice, mais allez-y.
Les États-Unis étaient sur une pente de croissance bien avant l'arrivée de George W. Bush. Les années Clinton ont été des années de très forte croissance.
Enfin, les grosses baisses d'impôts sont quand même à mettre au crédit.
Oui, mais elles n'ont pas provoqué, vous l'avez dit vous-même d'ailleurs, une croissance notable de l'emploi. Et donc, je ne pense pas qu'on puisse attribuer la force de l'économie américaine au fait que George Bush ait institué des baisses d'impôts qui sont d'ailleurs essentiellement destinées aux ménages les plus fortunés. Mais il faut un petit peu avoir la modestie de regarder notre propre situation. Il y a une dérive budgétaire en Europe qui s'est instaurée depuis une trentaine d'années et qui est, à mon avis, extrêmement grave dans ses conséquences sur l'emploi et ses conséquences sociales. Il faut savoir que l'ensemble des pays de la zone euro atteignent aujourd'hui, par rapport à leur produit intérieur brut, un taux de dépenses publiques qui est autour de 49%. Le chiffre comparable est de l'ordre de 30% aux États-Unis. Les prélèvements obligatoires, impôts et cotisations sociales, pour la zone euro, se situent autour de 45% du PIB. Ils sont 50% en France, nous tenons la palme.
Un petit peu moins de 50.
Non, j'ai les chiffres que j'ai soigneusement révisé. Et ça fait partie, justement, de cette intoxication qui nous est chère. Non, les chiffres sont autour de 50. Comme l'expansion des dépenses publiques n'a pas été entièrement financée par les prélèvements obligatoires, les États ont, depuis le début des années 80, accumulé des déficits chroniques. Est-ce qu'on sait, par exemple, que si on prend la période 80 à aujourd'hui, on a en France, quel que soit le stade de la conjoncture, même quand la conjoncture est très bonne, mais quand on écrase tout ça en moyenne, on a eu un déficit budgétaire moyen de 3,5% par an en France.
Du PIB.
Du PIB, et 2,5% en Allemagne. Alors ces déficits, évidemment, sont financés par l'emprunt, mais comme, et c'est heureux, l'inflation ne constitue plus le recours trop souvent utilisé dans le passé par les gouvernements pour spolier les épargnants,
la dette publique a eu tendance à gonfler en valeur réelle.
On est à 1000 milliards d'euros en France.
Oui, c'est-à-dire à 65% du PIB, alors qu'on considère qu'au-delà de 40 à 50%, on entre dans la zone dangereuse.
Je souligne. La limite de Maastricht, c'est 60, enfin, du pacte de stabilité,
oui, c'est 60%. Il est libéral de ce point de vue-là. Et il faut savoir qu'aux États-Unis, que l'on critique à juste titre d'ailleurs pour son déficit budgétaire, le taux de l'endettement public n'est que, entre guillemets, que de 50%. Comparé à nos 65. Alors, les conséquences de cette dégradation sont très lourdes du point de vue économique. On sait qu'au-delà d'un certain niveau de fiscalité et de parafiscalité, l'investissement tend à se réduire, les contribuables les plus aisés cherchent à se délocaliser, et que les arbitrages en matière d'implantation d'usines, de services, visent à privilégier les sites moins imposés. La concurrence dans le monde globalisé qui est le nôtre, ne concerne pas seulement l'échange de biens et de services. Elle s'exerce également en matière d'attractivité des investissements. Alors je crois qu'il est grand temps qu'on traite le problème des finances publiques dans les pays européens et qu'on quitte le terrain de la recherche illusoire d'une plus grande flexibilité du pacte de stabilité et de croissance.
La problématique n'est pas là, donc.
Dieu sait s'il a été flexibilisé, ce pacte, par tous les dépassements qui l'ont caractérisé. Je crois que le moment est venu de se poser la question : comment réduire les prélèvements obligatoires à un niveau qui permette à l'économie de respirer et aux investissements de repartir.
Vous seriez notamment pour une suppression de l'ISF en France, qui doit être l'un des derniers pays à avoir encore ce type
d'imposition. C'est un impôt qui est anti-économique et je crois qu'il y a vraiment toute une série de choses à faire. Ce n'est pas d'ailleurs seulement du point de vue de l'impôt. Il faut aussi éliminer des dépenses inutiles, augmenter la productivité. L'économie française est une économie qui est très productive. L'État français n'est pas un État très productif. Alors, et donc je crois qu'il y a beaucoup de choses à faire pour améliorer la qualité de la dépense publique, l'orienter vers la recherche, l'innovation, et ne pas se contenter d'avoir tous les ans des déficits de l'ordre de 2,5 à 3% ou plus.
Ça signifie poursuivre les fameuses réformes structurelles dont on parle si souvent. Quelles sont, selon vous, très rapidement, les grandes directions sur lesquelles il est très urgent de travailler ?
Celles qui ont déjà été commencées à être attaquées. C'est la réforme de la sécurité sociale, la réforme du système des retraites et la réforme de l'État et des administrations. Il y a encore beaucoup à faire dans ce domaine. Alors ça, ce sont des grands chapitres sur lesquels le rapport Cantu est plus disert.
Vous avez le sentiment qu'on a fait des progrès quand même dans ce domaine ?
On a fait quelques progrès.
D'accord.
On a
pour fait vous, quelques la réforme progrès, des retraites notamment, n'est pas une réformette.
Notamment dans le domaine des retraites, mais je dirais que malheureusement, l'essentiel reste à faire. Alors, si vous voulez, le dernier point qui me paraît...
Au sein de la recherche et l'innovation, oui. Dieu sait si on en a parlé ces derniers mois.
Oui, et c'est un sujet très important. Et je suis heureux que vous m'interrogiez dessus, parce que c'est un volet essentiel de la question comment rattraper les États-Unis ou comment faire aussi bien qu'eux dans les domaines où ils font bien. Alors, je crois qu'il y a deux domaines qu'on peut regarder. Il y a l'enseignement supérieur européen qui, à mon sens, pourrait s'inspirer ou peut-être en tout cas réfléchir à certains points forts du système américain. Et ensuite, il y a la recherche, notamment la recherche scientifique. Alors, les travaux de l'OCDE montrent que les ressources en pourcentage du PIB qui sont allouées à l'enseignement supérieur en Europe sont en moyenne deux fois plus faibles qu'aux États-Unis. Et c'est un constat d'une gravité extrême. Alors, je n'ai pas la prétention de formuler des recommandations sur ce sujet, qui ne m'est pas particulièrement familier, mais je ferai quelques observations qui sont tirées de l'observation aux États-Unis. Pourquoi est-ce que le système d'enseignement supérieur aux États-Unis est si attractif ? Pourquoi les gens veulent-ils avoir un diplôme de Harvard, de Yale, de Stanford ?
Ça fait bien.
Oui, ça fait bien, mais c'est plus que ça. Je crois que la qualité de ce système de grandes universités américaines dépend de plusieurs choses, pas très nombreuses, mais importantes. D'abord, c'est l'indépendance et le statut privé des plus grandes universités, pas de toutes les universités, il y a beaucoup d'universités d'État. Mais il se trouve que les plus grandes, celles qui ont le plus de renommée, sont des universités privées.
La deuxième chose, c'est que ces universités sont ouvertes au monde économique, ce qui n'est pas le cas, en tout cas de la même manière, en Europe. La troisième chose, c'est l'importance des financements privés dont bénéficient ces universités, notamment de fondations, d'entreprises, ainsi d'ailleurs que des anciens étudiants, dont certains ont très bien réussi, et dont la fidélité à l'alma mater est très fortement ancrée dans la culture américaine. La quatrième chose qui est fondamentale, c'est la vive concurrence qui règne aussi bien entre les universités qu'au sein du corps enseignant. Chaque université s'efforce d'attirer les universitaires et les chercheurs les plus reconnus.
Ils y arrivent.
Moyens, oui, parce qu'ils ont la liberté de fixer des salaires plus élevés, de leur donner des équipes, des laboratoires, etc. Enfin, il y a le recrutement systématique des meilleurs étudiants, notamment en provenance des pays émergents, et une culture de l'excellence fondée sur l'évaluation impartiale des résultats, tant des étudiants que des professeurs.
Jacques Delarosière, on va marquer une dernière pause dans cette émission Éclairage sur Canal Académie. On se retrouve dans quelques instants.
Ouvrir et découvrir les livres des académiciens, c'est ce que vous propose tous les jours Radio Canal Académie. À différentes heures de la journée, les membres de l'Académie des sciences morales et politiques vous parlent de leurs écrits, notamment historiques, philosophiques et économiques. Les livres des académiciens, leurs lectures, les prix qu'ils décernent chaque année, Radio Canal Académie leur donne la parole. Connectez-vous et écoutez.
Canal Académie.
Nous retrouvons Nicolas Dose.
Suite et fin d'éclairage aujourd'hui, j'ai pour invité Jacques Delarosière, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, ancien gouverneur de la Banque de France. Et le 6 décembre dernier, Jacques Delarosière évoquait la situation économique de l'Europe face à l'économie américaine devant les membres de l'Académie. Alors Jacques Delarosière, on était dans le troisième facteur essentiel sur lequel l'Europe doit travailler pour avoir peut-être une chance de rattraper ou en tout cas de se rapprocher des États-Unis, c'est l'enseignement supérieur. Et vous étiez en train de nous expliquer comment les Américains avaient réussi à mettre en place un système particulièrement attractif.
Oui. Alors je l'ai expliqué pour les universités et je vais dire un mot maintenant de la recherche et du développement, notamment en matière scientifique. Je crois que il faut savoir que les dépenses allouées par l'Europe à la recherche et au développement n'atteignent que 2% du PIB européen contre 3% aux États-Unis.
On s'est fixé un objectif de 3% justement c'est au fameux sommet de Lisbonne, sachant qu'il doit y avoir, je crois, 2% venant de fonds publics et 1% de fonds privés.
Oui. Alors, mais à mon avis...
Ça veut dire que la prise de conscience existe quand même en Europe.
Oui, elle existe au niveau de...
J'essaie d'être un peu plus optimiste que vous.
Il existe au niveau des sommets européens.
D'accord.
Mais quand on voit ce que le sommet de Lisbonne, qui posait comme objectif que l'Europe devienne l'économie de la connaissance la plus dynamique de la planète ou du monde...
Du monde,
en 2010, ça, oui. En 2010, et que l'on voit que l'écart n'a cessé de se dégrader par rapport aux États-Unis depuis 2000, je crois qu'il faut avoir un grain de sel quand on lit ce genre de communiqué. Mais je crois qu'il ne s'agit pas seulement de passer de 2 à 3 % du PIB, c'est-à-dire d'augmenter les fonds essentiellement publics alloués à la recherche, si on les répartit sur des structures inchangées. Je crois qu'il convient surtout de promouvoir entre universités, centres de recherche, qui sont souvent universitaires aux États-Unis, pouvoirs publics et entreprises, de véritables réseaux interactifs.
Les fameux rapports publics-privés, donc.
Oui, et ça, c'est quelque chose de fondamental. Je vous conseille, mes chers auditeurs et chers amis, de vous reporter à un rapport que j'ai trouvé absolument éclairant. Il a été écrit par Christian Blanc pour le Premier ministre. Il vient de sortir.
L'ancien président d'Air France.
Oui. Et il a montré qu'il savait gérer une grande entreprise. Et il a écrit un rapport qui s'appelle « Pour un écosystème de la croissance ». Et il touche notamment le problème qui est le nôtre. Et je ne saurais mieux dire que lui. Et donc, je vais le citer, si vous me permettez, ça sera très bref. Il dit ceci. « L'initiative privée aux États-Unis est à la source de tous les succès majeurs. La dynamique d'ensemble... »
C'est la main invisible, ça.
Oui, si vous voulez, mais elle produit des résultats visibles. La dynamique d'ensemble du cluster, c'est-à-dire du réseau, et celle d'un cercle vertueux où excellence académique et dynamisme économique se renforcent mutuellement. La transversalité, dit-il, est une notion absolument capitale au cœur du modèle. Recherche, enseignement, entreprise sont étroitement mêlées au point que les mêmes personnes peuvent être à des moments successifs de leur carrière chercheurs, entrepreneurs, consultants et investisseurs. Fin de citation. Eh bien, ça, je crois que ça devrait être écrit en lettres d'or au-dessus de nos centres de recherche et notre ministère de l'Éducation nationale. J'ajoute que la politique américaine active et sélective d'immigration s'accompagne d'une forte présence aux États-Unis de chercheurs étrangers et notamment asiatiques. Après la mondialisation de la production dans la période 70-2000, la décade 2000-2010, celle dans laquelle nous sommes, s'annonce comme la mondialisation du savoir. Les gagnants seront certainement les nouvelles élites américaines et asiatiques qui sont engagées depuis 20 ans maintenant dans des logiques fécondes de co-développement. Alors, à l'Europe de s'inspirer de ce modèle.
de redéfinir l'action de l'État en matière de recherche, de développer le champ du mécénat privé, de favoriser fiscalement la création de fondations académiques, de faire jouer la concurrence entre les équipes en acceptant de remettre en cause les situations acquises, de mieux assurer le lien entre recherche, université et entreprise.
Mais qui fera ça en Europe ? Pour l'instant, l'Europe...
De revoir le statut des enseignants-chercheurs financés sur fonds publics. Tout ça, c'est un programme extrêmement vaste.
Jacques Delarosière, excepté une monnaie et une banque, on n'a pas grand-chose de commun en Europe. Et peut-être un groupe qui s'appelle EADS.
Eh bien, oui, on a ces choses qui sont quand même importantes. Une monnaie
commune, bien d'accord.
L'Airbus, vous l'avez signalé, mais il y a d'autres choses qui marchent aussi en Europe. Je crois que... J'ai été très séduit par deux propositions récentes. Une qui a été formulée par l'Institut Montaigne, François Cher, Amélie Castéra et Jean-Pierre Trintiette, qui consiste à créer une quinzaine, ils appellent ça des groupements universitaires européens, de très haut niveau, dans le domaine des sciences. L'idée serait de soutenir par des financements publics, européens, locaux aussi, et privés, la formation de ce qu'ils appellent des fédérations de 3 à 5 établissements regroupant des universités ou et des grandes écoles et des centres de recherche. Ces pôles d'excellence auraient pour ambition d'attirer des étudiants qui sortiraient un peu du moule national et donc de remédier à l'insuffisante attractivité des universités du continent européen à l'échelle mondiale. Il y a une deuxième idée que j'ai entendue très récemment, formulée par un homme de science absolument remarquable, qui est aussi membre de l'Académie des sciences morales et politiques, qui s'appelle M. Despagna, qui est un physicien en matière nucléaire, très remarquable. Et il dit ceci. Il dit aux États-Unis, dans le domaine par exemple de la physique, dans le domaine de la chimie, vous avez tous les ans un grand congrès, une grande convention, qui n'est pas organisé par les universités, qui n'est pas organisé par l'État, qui est organisé par les jeunes chercheurs, c'est-à-dire des chercheurs qui ont leur thèse et qui sont dans leurs premières années de recherche. Et ils se mettent ensemble, ça ne coûte pas très cher, ils font une grande journée. Et dans cette journée, ils présentent des communications, ces jeunes chercheurs. Et qui est présent dans l'auditoire ? Les centres de recherche, les universités, les plus grandes universités. Et quand on est séduit par tel ou tel exposé, c'est la ruée pour obtenir la présence de ce ou cette jeune chercheur dans une université de grand renom. On pourrait très bien faire ça, mais c'est très difficile de faire ça dans un pays comme la France, parce que ça va contre les principes de la non-sélection.
Alors vous imaginez dans une Europe à 25
hein. Eh bien, c'est probablement plus facile.
Vous pensez que c'est plus facile ? D'où va venir la pulsion ?
Imaginez que des jeunes chercheurs décident de faire une journée dans un pays européen et d'intéresser des centres de recherche et des universités. C'est peut-être une idée qui aurait une valeur d'entraînement. En tout cas, je crois qu'il faut se dire que si nous ne changeons pas nos méthodes, si nous nous bornons à dire avec Lisbonne qu'il faut mettre un point de PIB de plus de financement sur des structures qui ont montré leur inefficacité relative, surtout dans le domaine des sciences, parce qu'on a d'excellentes universités dans le domaine médical, ou de droit, ou littéraire, ou musical. Mais dans le domaine de la science, je crois que c'est une absolue nécessité. Voilà l'essentiel de ce que je pense.
Quel est le domaine dans lequel nous sommes le plus en retard ? Celui du temps de travail qu'il faut réformer, celui des prélèvements obligatoires qu'il faut réduire ou celui de l'innovation et de la recherche ?
Je dirais que les trois, parce qu'on est vraiment très problématique sur les trois.
Est-ce que vous n'avez pas le sentiment qu'en face, les États-Unis feront tout ce qu'ils peuvent pour éviter qu'on rattrape ce retard si tant est qu'on ait une chance de le faire ?
Oui, mais ça, c'est la compétition.
C'est
la compétition. Aujourd'hui...
Mais elle n'est pas armes égales, la compétition.
Aujourd'hui, il y a une réduction modeste, mais il y a une réduction du nombre des entrants pour les universités américaines en provenance des pays extérieurs aux États-Unis. Pourquoi y a-t-il une réduction ? Elle est de l'ordre de 1 à 2 %. L'année universitaire qui vient de s'écouler. parce que les formalités d'entrée aux États-Unis, après les événements de terrorisme, sont devenues beaucoup plus difficiles. Et moi, je dis, on a une chance. Hier, j'ai entendu au concours Marguerite Long et Jacques Thibault le premier Grand Prix, qui est un Chinois, un jeune Chinois, qui doit avoir 18 ou 20 ans. Où est-ce qu'il a été élevé musicalement ? Au Conservatoire de Paris. On est parfaitement capable. On a des universitaires, des chercheurs qui sont remarquables. C'est le système qui n'est pas assez ouvert, qui n'est pas assez attrayant.
Alors, qui est à la tête du système ? Les gouvernements nationaux,
les ministères de l'Éducation nationale. Et ça, il faut arriver par le recul des frontières du mécénat, par des initiatives privées, une concentration des moyens. Il y a un économiste qui me disait il y a quelque temps que si on désignait quelques pôles d'excellence en France, Grenoble pour l'électronique, Toulouse pour l'aéronautique, Saclay pour le nucléaire, en sortant du carcan des frontières administratives, eh bien on pourrait avoir une concentration de moyens qui commencerait à ressembler à ce qui se passe aux États-Unis. Ce sont des choses qui sont faisables. Vous savez ce que Sénèque disait ?
Allez-y, on terminera par ça.
On terminera par ça. C'est une belle phrase.
Allez-y.
Il disait, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas que les choses sont difficiles.
Merci Jacques Delarosière d'avoir accepté mon invitation. Éclairage recevait donc aujourd'hui l'académicien, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, Jacques Delarosière, également ancien gouverneur de la Banque de France, ex-directeur général du FMI. Et ou encore, on peut même dire, ancien gouverneur, ancien président de la BER, de la Banque européenne, pour la reconstruction et le développement. Merci d'avoir été avec nous.
Merci à vous.